Bonsoir mesdames et messieurs. Dans quelques instants, vous allez voir et entendre « Ça, c'est de l'info ». Votre journal de 20h, exactement semblable à celui d'hier et à celui de demain. Si les sujets originaux ne nous sont pas parvenus à temps, soit nous invoquerons la pudeur et la réserve, soit nous diffuserons des images d'archives. Envoyez l'horreur, envoyez la banalité, top chrono.
Oui, top chrono.
On nous prend vraiment pour des cons. Plus ça va, plus c'est pareil. On sait plus de rien. Y'a des limites, y'a plus de limites. C'est pas perdu pour tout le monde. Toujours les mêmes. Y'en a toujours pour être d'accord. Le beurre et l'argent du beurre, c'est du pareil au même. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. On va bien voir ce qu'on va voir. Ça laisse toujours des traces.
Donnez-nous notre quotidien de carnage, de douleur, d'horreur, de malheur. Injectez-nous de la bonne tortue. Tête coupée, femme éventrée, enfant choqué. Rassurez-nous d'un bon débat. Le sida des évêques, la capote et la foi. Assis sur la plage, les pieds dans l'eau, caressant vaguement ma guitare. Je pense à Pinochet, le vieux tyran sénile, et au vrai secret de son charisme faux. Son cache-cerveux, là sa casquette dorée, est deux fois plus haut que celle de ses larbins.
Vaut mieux réfléchir à deux fois. On n'a que ce qu'on mérite. Quand faut y aller, faut y aller. Après l'heure, c'est plus l'heure. Non mais faut pas déconner. Y a pas de fumée sans feu. Va savoir, faut s'attendre au pire. Y a un malaise. Dans un fauteuil, les doigts dans le nez. C'est la dure loi du sport.
Distillez-nous quelques bonnes brèves sur la France socialiste et les ventes d'armement. Évoquez-nous quelques grosses grèves où c'est chacun pour soi, grand coup de slogan. Filez-nous 30 secondes de rêve sur les bourses de Dow Jones, l'érection de Nikkei. Toujours le cul dans le sable, je pense à mes 20 ans, pervertis par une guerre sans nom. Alger, phare du tiers-monde, torture dans ses casernes, et tue 500 de ses enfants. Quelle différence que vous voyez entre un shoot à l'héros et la réalité.
Un exemple d'un journalisme qui a commencé une carrière dans ce que vous appelez l'impertinence, la contradiction, le non-consensus, et qui n'est pas été soit passer aux oubliettes, soit récupérer. Il n'y a pas d'alternative. Le système jette, rejette tout ce qu'il ne peut pas récupérer. Si vous restez, vous ne restez jamais à l'antenne impunément. Jamais.
Est-ce que vous renouvelez ce soir votre appel à calmer le jeu partout dans tous les quartiers où il y a des incidents?
Est-ce qu'on admet que, à l'illégitimité de l'exploitation du mépris que l'on impose à ces gens, peut correspondre la légitimité de la violence qui existe, qui doit exister, qui peut exister en tout cas dans la révolte? Tout est là. Il est une violence symbolique légitime pour M. Pujadas, il est une violence physique, collective, illégitime pour M. Pujadas. La ligne de partage se fait selon des intérêts, excusez-moi de l'archaïsme du mot, des intérêts de classe.
Les prochains coups, il va falloir qu'elle tape fort une fois de plus en plus fort.
Les journalistes, pour la très grande majorité, au-delà de la majorité, pour eux, les classes populaires, c'est une réserve d'Indiens, ils ne les connaissent pas. Ils ne viennent pas de ces milieux. Ils n'en connaissent pas les codes, ils n'en connaissent pas les préoccupations, ils n'en connaissent pas les conditions de vie, ils n'en connaissent pas la culture, ils n'en connaissent pas les traditions. Dès l'instant où ces gens sortent de leur rôle, qui est d'être dans un fond de panneau de paysage, d'être des gens pittoresques, d'être des gens identifiables à des poncifs idéologiques, dès l'instant où ils sortent de là, où ils ne sont plus des Indiens dans leur réserve, alors ils deviennent dangereux. Parce que...
Eh bien, c'est un document, on peut dire, non pas exclusif, mais assez intéressant que l'on vient d'entendre. Salut Gilles Balbastre, qui
Bonjour.
Est donc notre invité, pour nous parler de ces médias-là. Tu nous dis deux mots sur ce qu'on vient d'entendre, là?
Oui, alors là, vous venez d'entendre Michel Naudy. Michel Naudy était un de ceux qui a été interviewé dans le film Les Nouveaux Chiens de Garde, avec des économistes comme Jean Gadret, bien connu à Lille, Frédéric Lordon, aussi connu, un sociologue François Denord ou un des fondateurs d'Acrimed, Henri Malheur. Donc Michel Naudy était journaliste, jeudi été, parce que Michel s'est foutu une balle dans la tête il y a 15 jours. Voilà.
Et c'est peut-être pas innocent, c'est la fin d'une carrière entre guillemets. Voilà, Michel. On peut rappeler en deux mots quand même ses problèmes, enfin son parcours.
Michel avait 60 ans. Michel est quelqu'un issu de milieux populaires, de petits douaniers de l'Ariège. Est rentré très tôt aux Jeunesses communistes à 14 ans. A fait Hippocagne et Cagne à une thèse d'histoire. C'était quelqu'un de brillant. Il est rentré à l'UMA. Il est devenu chef de service en 80-81, dans une période chef du service politique, dans une période importante. Il est un des fondateurs de Politis. Il fait partie de ces journalistes qui ont été intégrés en 81 quand un parti socialiste qui a pris le pouvoir avait encore des vilités d'être de gauche.
Qui a été élu quand même. Prendre le pouvoir, c'est...
ils avaient été élus, mais ils avaient des vilités d'être de gauche encore. Ça a duré très peu de temps.
Ça nous rappelle quelque chose.
Donc il y a eu un quota de journalistes qui ont été réintégrés, qui avaient été virés en 1968. Dont
Michel Pollack.
Bien sûr, il y avait aussi... Jean-Luc Manot, qui a beaucoup plus mal tourné, qui était un des conseillers.
L'autre jour, nous interviewons la dame Max-Paul Fouché, aussi, qui avait fait partie aussi de la charrette.
Donc voilà, et Michel Naudy, donc lui, il était trop jeune en 68, mais il est rentré donc à France 3, il est devenu directeur de l'information de France 3.
National.
Bien sûr, national. Il a été, entre autres, un éditorialiste d'une émission connue dans les années 85, Taxi avec Alfonsi, et tu peux en dire peut-être deux mots.
Je me souviens de ce magazine qui était sur France 3, c'était un magazine hebdomadaire, et qui faisait, on peut le dire, du vrai journalisme, c'est-à-dire qui était proche de l'actualité, et
comme d'investigation, surtout d'enquête.
De l'investigation. Et comme il vient de le dire dans son témoignage qu'on vient d'entendre, c'est qu'effectivement, ils allaient effectivement là où il y a des choses à dire, où il y a des témoins qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans ces médias-là.
En 87, il a fait donc un éditorial sur la mort de Malik Oussekin quand la droite avait repris le pouvoir et que Pasqua était ministre de l'Intérieur.
C'était en 86, Malik Oussekin, au mois de décembre.
Ouais, c'est ça. Et donc, Taxi a aussitôt arrêté et il est viré une première fois. Donc il a toujours été à France 3, bon an mal an, et en 95, quand Chirac est de nouveau élu, au second tour, donc il y a cette fameuse séquence. Là, il a été déjà rétrogradé, il a une émission de médias, de critique un peu de médias, comme ça, sur France 3 Île-de-France. Il a déjà été quand même mis au placard plusieurs fois. Et donc, quand le lendemain du second tour, il fait dans son émission, il parle du traitement de France 2 de l'élection de Chirac. Et c'est cette fameuse séquence où on voit Benoît Duquesne qui suit à la caméra un travelling de Chirac pendant des minutes et des minutes à travers Paris. On s'en fout complètement. Ça n'apporte strictement rien, mais c'est la performance technique et du suivisme du nouveau président de la République.
Une dérive
déjà bien importante du journalisme. Et il fait donc une émission critique et aussitôt censurée. Et donc, il a donné sa démission. Et depuis 1995...
Il
est au placard. Il n'a jamais eu de poste. Le SNI-CGT, son syndicat, a tenté plusieurs fois, à chaque fois qu'il y avait un poste de même en dessous, hein, puisque là, dernièrement, ils avaient demandé le poste de chef de service politique était vacant à France 3. Même en dessous de ses responsabilités qui étaient hautes, ils l'ont refusé en disant « Et puis quoi, jamais on le prendra. » Et voilà.
Donc il était réfugié. Uniquement donc sur des prétextes, pas des prétextes, sur des raisons politiques.
Fondamentalement, il était donc réfugié en Ariège et il s'est tiré une balle dans la tête il y a 15 jours. Nous, on l'avait fait son interview il y a 2 ans. Il y a un an, quasiment jour pour jour, quand il est mort le 3 décembre, là, il s'est tué le 3 décembre. Et le 9 décembre, je faisais une des premières avant-premières en Ariège. Il avait mobilisé ses réseaux. Alors que le film n'était pas connu, il y avait déjà eu 150 personnes à Tarascon sur Ariège en plein mois de décembre. Il a accompagné le film énormément, notamment dans tout le sud-ouest, en janvier, février, mars, avril. Il a fait plusieurs projections débats à Pau, à Brive, à Tulle, à Mont-Marsan, à Dax. Enfin, il a fait un gros travail d'accompagnement de ce film et il était tombé en dépression et il y a de quoi. Voilà. Pierre Carle, donc le réalisateur que vous connaissez certainement, était à son enterrement en Ariège. Moi, j'ai pas pu y aller. Et il m'a envoyé un email en me disant, voilà, je pense qu'il faut vraiment porter le fait qu'il y a un macartisme dans les médias français et dans le service public français sur tout ce qui est communiste ou qui regarde la société avec...
Critique.
Avec un critère un peu marxiste ou critique, mais critique un peu radical. Parce qu'après, critique gentille, ça c'est possible. Ça mange pas de pain, on le récupère, comme dit Michel. Hein, soit t'es récupéré, soit t'es éliminé.
Tu veux parler de la presse de gauche, là.
Et donc, il y a officiel. Vraiment un macartisme très, 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 très violent. Donc là, il y a une mobilisation sur la mort de Michel. Son syndicat et mon syndicat, le SNI-CGT, s'est mobilisé. On va faire une soirée en janvier à sa mémoire.
Ici, sur l'île.
Non, à Paris.
National.
C'est vraiment rue de coup. Enfin, moi, je l'ai très mal vécu parce que justement, le film, on va avoir l'occasion d'en parler, a énormément bien marché. On a porté un coup, mais quand comme ça, un camarade meurt aussi violemment, on a un peu de mal à l'accepter. On se dit, alors que ces chiens de garde qui sont couchés devant la capitale, devant les pouvoirs en place, sont là. Ils sont en train de parader.
Qui plus est, ont le culot de donner des leçons de liberté d'expression.
Mais bien sûr, les Barbier, au monde entier. Sont là, paradent, pérorent, alors qu'ils sont à quatre pattes, comme des chiens, devant les Pinault, Arnault, Bouygues, Bolloré, Lagardère, tous ces propriétaires.
Et depuis peu, Bernard Tapie.
Et Bernard Tapie, là, maintenant. Et eux, ils continuent à être là avec des salaires conséquents. Et
les tapis rouges ouverts dans tous les médias.
Et voilà. Et les camarades.
Et les micros et les caméras ouvertes en permanence, à longueur d'antenne et à longueur de page en ce qui concerne...
On va en parler, là, justement, de ça. Et voilà.
Alors, tu viens de l'évoquer, ça s'appelle Les Nouveaux Chiens de Garde. C'est bien sûr en référence... c'est Serge Halimi, hein, je crois, qui a repris ce titre-là pour d'abord un livre. Mais c'était en référence. C'est Paul Nizan,
c'est ça.
Qui a écrit en 1930 déjà Les Chiens de Garde, qui était déjà
Oui, qui était une critique sur les chiens de garde de l'époque, c'est-à-dire pour lui les philosophes, les écrivains bourgeois,
les intellectuels.
Qui dans une période difficile détournaient le regard sur ces difficultés-là. Et bien sûr, était déjà du côté du pouvoir en place. Et Paul Nizan, qui était un intellectuel communiste, qui est mort à la guerre en 1939, hein, qui est enterré dans le Pas-de-Calais, pas loin d'ici. un brillant intellectuel, un compagnon de Sartre, avait écrit ce livre-là. Donc,
qui est toujours une référence.
Qui est toujours une référence, qui s'est très très bien vendu depuis que le nouveau Ocean Guard est sorti au cinéma, ça c'est important. Et donc il y a eu ce livre de Michel, de Serge Halimi en 1997 avec une réécriture en 2005, en 2006, après le référendum sur le traité constitutionnel, donc qui a été excessivement bien vendu, qui a énormément marché. Il y a eu plus de 250 000 livres vendus des nouveaux Ocean Guard de Serge. Et on a fini par faire un documentaire qui est sorti en janvier de cette année, hein, en tout début janvier, avec Yannick Ergoat, qui est un des grands monteurs du cinéma français. C'est lui qui a monté Capital, par exemple, de Costa Gavras, qui vient de sortir. Avec Serge Halimi en auteur, hein, qui est donc maintenant le directeur du Monde Diplomatique. Pierre Imbert, le rédacteur en chef du Monde Diplomatique. Et Renaud Lambert, le rédacteur en chef adjoint du Monde Diplomatique. Voilà, on a sorti ce film.
Le Monde Diplomatique, c'est un journal qu'on ne cite jamais dans la presse.
Dans les revues
normal,
de presse.
Hein. Jamais. À Radio Campus Lille, parfois, si. On est d'accord, bon, on va pas y passer la journée, mais jamais, nulle part.
Alors, c'est jamais.
Un journal
jamais,
de référence.
C'est jamais.
Il n'existe pas.
On a fait des tests. Hein, un gars qui était stagiaire de Sciences Po au Monde Diplomatique, ils lui ont confié la vérification de ça. Sur 6 mois, il n'a jamais été cité. C'est le journal le plus français le plus vendu dans le monde, puisqu'il voilà. Y a les éditions étrangères, etc.
Exactement.
Il n'est jamais, jamais, jamais cité.
C'est traduit dans toutes les langues, presque.
Traduit dans toutes les langues, jamais cité.
C'est extraordinaire.
Donc voilà, le film est sorti en janvier, hein, donc il a bénéficié d'un gros travail de réseau, hein, mais vraiment d'un gros travail de réseau. Nous, on a organisé une douzaine de projections en France en novembre-décembre avec des cinémas
donc,
partenaires.
Donc au bout de 12 mois, tu peux faire un petit bilan là, du nombre de salles,
mais
du nombre
surtout,
de spectateurs.
Comment on a procédé, c'est-à-dire qu'on a fait une douzaine avec des copains qui étaient dans des grandes villes, à Lyon, à Marseille, à Nantes, à Rennes, etc. On a organisé des projections avec le cinéma partenaire, hein, celui qui allait le projeter le 11 janvier quand il est sorti, et ces copains-là, ces correspondants, faisaient venir des têtes de réseau un samedi matin en projection gratuite à une trentaine, quarantaine, cinquantaine de personnes qui avaient le privilège de le regarder un peu en exclusivité, mais qui étaient des responsables syndicalistes, CGT, FSU, Sud, voire CNT, associatifs bien sûr, et politiques, Front de Gauche majoritairement, hein, NPA,
médias
ouvrières,
enfin
bon. Les gens qui sont proches de nous, et ça a énormément marché parce que justement le film a été vraiment publicité par ces projections là en avant-première, et le boulot c'était de dire ben voilà camarades, si ce film là est important pour vous, eh ben vous allez dire à vos réseaux d'aller le voir en janvier. Il y a eu par exemple une page dans le magazine Ensemble, hein, la revue de la CGT, 600 000 exemplaires, 2 pages dans USMAC, qui est le magazine du SNES, hein, 150 000 exemplaires, c'est-à-dire qu'on savait que les médias n'allaient pas en parler en bien, donc on a privilégié un travail militant. Et ça, il y a eu après un bouche à oreille, il y a eu la campagne des présidentielles, et le film, donc, on est à peu près à 220 000 entrées, ce qui correspond pour un documentaire cinéma, la plus grosse sortie depuis des années en France.
Hein. Avec des moyens
exclusivement des moyens
militants.
Très, très, très bas, militants. Hein, parce qu'en plus, on n'a pas bénéficié, bien sûr, d'une distribution des grands réseaux, IGC, Pathé, Gaumont, etc.
Et
ni
d'MK2,
par exemple. MK2 à Paris l'a refusé, Karmitz, mais c'est normal. Il est passé de l'extrême gauche comme Michel Field à Sarkozy, donc à conseiller de Sarkozy. Donc il n'a pas voulu, hein, alors qu'il y a des tas d'autres films, par exemple tout sur l'Arzac, qu'il a pris dans ses MK2. Nous, on a été refusés. Et après, on a été très mal distribués. Quand je dis qu'il y a eu des projections en France avec des têtes de réseau, ça s'est fait dans toutes les villes, sauf dans une. La nôtre, Lille. Parce qu'effectivement, le Métropole et Majestic, qui est dirigé par Vermezen, qui est un vrai gougnafier, n'a pas voulu le prendre ou a fait le mort pour faire ses pré-projections. Et
il a la mémoire courte, lui, parce que
C'est un CMAO, je crois. Hein. un de plus. Et c'est avec Tech Criac, Travail Culture, qu'on a fait une projection à l'univers, hein, avec ses têtes de réseau, et qu'on a informé les têtes de réseau à Lille. Ça a très bien marché, du reste, à Lille. Et après, il a fini par le prendre le 11 janvier, le Vermezen, au Majestic, au Métropole, mais en le mettant à pas de très bons horaires, en le bougeant entre les deux salles, en le prenant pas très longtemps, et en plus, en le prenant au dernier moment pour emmerder le Kino, et le Méliès qui le programme, eux, après. Et comme le distributeur Épicentre voulait que ça sorte au centre-ville dans un premier temps, il aurait mieux fait que ça sorte d'abord au Méliès. Hein, et ça, c'est les tactiques. Et donc, du coup, l'autre, il a pas dit quand il le prenait ou combien de temps il le prenait, exprès pour faire chier les autres cinémas d'art et d'essai de la banlieue.
Des petites mesquineries.
Ah, mais c'est plus qu'une mesquinerie.
C'est l'obstacle, carrément.
Et c'est quelqu'un, moi, je le vois, j'ai fait 80 débats. En tout, on a fait 300 débats. On a accompagné ce film énormément avec Yannick, les camarades du Monde Diplôme, mais aussi les gars d'Acrimed. Hein. Il y a une dizaine de gens d'Acrimed, d'Action Critique Média, qui ont accompagné le film. 300 débats du 11 janvier jusqu'à fin avril. Je ne sais pas si vous voyez, c'était 4-5 par jour.
On a publié les dates dans des projections de la région. Et je me souviens.
Et dans la région, il a bien marché. Hein.
Béthune, Dunkerque, Calais, Hasbrouck.
Bien sûr, Hasbrouck.
Vous êtes passé partout.
Caudry, Templeuve. Vraiment.
Bien sûr,
Berck. Enfin bon. Après, parce qu'il y a eu des associations. Hein, ici, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est le fil en image, je ne sais pas quoi, qui l'ont accompagné aussi, les associations départementales.
Idée à coudre aussi.
Donc voilà, et les petits cinémas, par contre, l'ont pris au bout d'un moment, même les petits cinémas commerciaux, parce qu'ils ne prennent pas souvent ce genre de docu, mais comme ils ont vu que ça marchait quand même, ils l'ont pris là, par contre. Et le film a fait, il a eu un bouche à oreille, il y a eu des CE, les comités d'entreprise. Par exemple, ici, encore heureux qu'on a encore des services publics, même s'ils sont attaqués, comme on le sait. Le CE SNCF, par exemple, de Dunkerque, a payé au Varin ou je sais pas quoi le cinéma d'arrêt d'essai de Grande Sainte. Il y a une association d'université populaire dans la ville a payé 150 places offert au cinéma et qui a offert 150 places. Le cinéma est au pied de cité. Hein. Et donc il y a eu des gens de cité du prolétariat blanc, du prolétariat d'origine maghrébine qui sont venus. La salle était remplie, là, il n'y avait pas un seul bobo dans la salle, je peux vous dire. Et c'est grâce au CE SNCF de Dunkerque. Pareil, ils ont pris la salle au mois d'avril, le CE SNCF Métropole, et ils l'ont passé au Métropole quand même. Ils l'ont pris. Et ils avaient, par exemple, acheté 100 chiens de garde de Nizan pour offrir à leurs salariés. Voilà. Des exemples comme ça d'investissement.
C'est un vrai boulot de terrain et de.
Ouais, de CE SNCF et de CE d'EDF. Hein, on a beau taper. Sur ces services publics, sur les camarades de la CGT, bien souvent, ou même sur EDF. C'est sûr qu'il y a des critiques à faire, hein, des questions à se poser sur le nucléaire, mais d'un autre côté, ces CE font encore un peu d'éducation populaire dans la mesure du possible. Et
ça,
le film
bon
est
exemple.
Rentré dans ce dispositif. Et ça, c'est vraiment important. Et je vous dis, moi, j'ai fait 80 débats et c'était vraiment intéressant.
Donc, je vous rassure, hein, le CE d'Auchan, puisque le siège central est situé juste derrière nous, n'a pas fait ce genre de choses.
Voilà.
Hélas.
Alors, par contre, après, moi, je sais qu'il y a aussi des CE, genre le CHR, hein, le CHU, qui là, on a commandé. Alors voilà, et donc le DVD, maintenant, c'était pour dire, le DVD vient de sortir depuis le 4 décembre. Hein.
Ah ben, je te propose, Gilles, voilà. Après une petite chanson, on a parlé du bilan, la diffusion sous forme de film, et maintenant, ça passe en DVD. Et on va en parler un petit peu du contenu et pourquoi. D'accord. Autant de difficultés pour faire diffuser un document extraordinaire qui nous apprend plein de choses. Je vous signale, pour ceux qui viennent de prendre l'émission en cours de route, que c'est notre camarade André qui vient de nous rejoindre. Notre invité, c'est Gilles Balbastre, qui est un des co-réalisateurs du film documentaire Les Nouveaux Chiens de Garde. Et on parle avec lui pendant jusqu'à 13h, pendant ce magazine du 22 décembre. Je vous rappelle également que si vous prenez l'émission en cours, et comme toutes les autres émissions de Campus, vous pouvez les retrouver, les réécouter, les télécharger, les podcaster sur le site de Campus, www.campuslille.com. Tcha-tcha Média, c'est le titre de la chanson de Gilbert Lafaye.
Y'a Kadhafi, l'Ayatollah, les Philippines et l'Ouganda, les stars, les scoops, les photoshock, la Chicholine et Bébé Doc. Le crack, la crise économique, les crimes des amants diaboliques, la hausse du fioul et du mazout, le box-office, l'indice d'écoute. Y'a la une des magazines, les faits divers et la routine, la terre qui tremble à Mexico, le but marqué par Monaco. Tcha tcha, tcha tcha média, show show, nouveau tout chaud. cha cha, cha cha media, chaud chaud, tout chaud tout chaud, cha cha, cha cha media, chaud chaud, nouveau tout chaud, cha cha, cha cha media, chaud chaud, tout chaud tout chaud. Y'a Platini, l'Iran, l'Irak, les pronostics, le tac au tac, la boxe, le foot, le motocross, la Coupe Davis et France-Écosse, le nouveau machin qui décoiffe, le tout Paris, les rois du paf, les Lolitas qui grimpent au top, les fiches cuisine et l'horoscope. Y'a la une des magasins, les faits divers et la routine, les bus qui flambent à Soweto, le casse du siècle à Chicago. Cha cha, cha cha media, chaud chaud, nouveau tout chaud. Cha cha, cha cha media, chaud chaud, tout chaud tout chaud. Cha cha, cha cha media, chaud chaud, nouveau tout chaud. Cha cha, cha cha media, chaud chaud, tout chaud tout chaud. Photoshop, la Ciccioline et bébé doc. Y'a la une des magasins, les faits divers et la routine. Y'a Las Vegas et Macao, les dictateurs, les pieds dans l'eau. Cha cha, cha cha media, chaud chaud, nouveau tout chaud. Cha cha, cha cha media, chaud chaud, tout chaud tout chaud. Cha cha, cha cha media, chaud chaud, nouveau tout chaud. Cha cha, cha cha media, chaud chaud, tout chaud tout chaud. Cha cha, cha cha media.
Cha-cha Média, chanson de Gilbert Lafaye, pour illustrer le thème de ce magazine d'aujourd'hui. Avec notre invité, c'est Gilles Balbastre, qui fait partie de l'équipe de réalisation de ce très beau film documentaire sur le monde des médias, le parti de la presse et de l'argent, comme ils l'appellent eux-mêmes dans ce documentaire. Alors, le contenu de ce documentaire, moi, si on l'a regardé, c'est tellement dense, d'ailleurs, c'est pour ça que même si on l'a vu en film, il faut absolument le prendre à DVD pour regarder ça tranquillement chez soi, parce que là, pendant, c'est une heure et demie, là, enfin, c'est un film, il se passe, on en prend plein les yeux et plein les oreilles, hein, évidemment, les grands journalistes, sur les cercles, sur les experts en tout genre, hein, les économistes, alors là, les économistes, on les voit à longueur d'antenne, les experts en ceci, les experts en machin, et bien sûr tout ça au fil, le fil conducteur, c'est la pensée unique. La pensée unique, on la retrouve dans la presse écrite, on la retrouve dans la radio, dans la télévision. T'as quelques exemples à nous donner ?
Bien sûr. Alors le film il fait 1h40 et il est charpenté en trois parties. La première partie, c'est connivence politique et surtout économique. Hein. Y a une séquence assez remarquable de Michel Drucker et Jean-Pierre Elkabbach qui est l'invité et qui invite tous les deux alors que c'est leur patron Arnaud Lagardère. Et il y a une séance de mèche. Mais c'est indécent.
Même les guignols.
Sur l'antenne, à l'antenne, c'est assez impressionnant. Elle cabache ce qui peut lécher Arnaud Lagardère. Et à la fin du film, ce qui est assez remarquable, c'est que quelqu'un comme ça qui lèche autant son patron, en plus, il a la Légion d'honneur. Et on lui remet la Légion d'honneur. Et à cette Légion d'honneur sont présents Robert Hue et François Hollande. Effectivement.
Le monde est petit.
Ça fait un peu peur. Donc la deuxième partie est charpentée autour de la pensée unique avec les experts qui sont très très présents partout. Hein,
surtout en économie.
Cette trentaine d'experts médiatiques qu'on nous ressasse et qui...
Élie Cohen.
Élie Cohen, Daniel Cohen, Michel Godet, Lorenzi, Jean-Hervé Lorenzi, Christian
Le Chauve, là maintenant qu'on a sur France.
Enfin, tous ces mecs-là.
L'anglais.
Qui nous ont amenés droit dans le mur, en plus, hein, avec ce qu'ils prenaient. Et on a vu avec la crise de 2008, enfin la crise, non, le résultat des pratiques capitalistes. Bon, j'appelle pas ça une crise, moi. Et ce qui se passe maintenant, de voir concrètement où ils nous ont amenés. Et là, on fait intervenir notamment Frédéric Lordon, bien sûr, et Jean Gadret. Et Jean Gadret pointe le fait que ces experts passent dans les médias constamment. Ils ont le qualificatif d'économiste, alors qu'ils cachetonnent dans les banques, ils sont dans les conseils d'administration de grandes sociétés, etc. Par exemple, Élie Cohen, en 2011, il est à Steria, à Page Jaune et à EDF Énergie Nouvelle, et il a touché 110 000 euros de jetons de présence pour être présent dans ces trois conseils d'administration. Un conseil d'administration, jetons de présence, c'est le fait d'être présent. Hein. Donc, des conseils d'administration, il y en a trois par an, hein, grosso modo, ça dure 2 heures, 3 × 2, 6. 6 fois 3, 18, il a touché 110 000 euros pour 18 heures de boulot. Et encore de boulot, c'est en valide ce
de
que
présence.
Le conseil d'administration de présence, hein, c'est pas du boulot. Et alors, en plus, on comprend mieux que Élie Cohen soit pour la dérégulation des services publics. Hein, c'est quelqu'un qui a prôné la dérégulation des services publics. Il faut voir que Élie Cohen est quand même le conseiller de François Hollande, hein, c'est ce qu'il ne faut pas l'oublier. Daniel Cohen, son homologue, il est conseiller de Martine Aubry. Le conseiller de Martine Aubry est maintenant de François Hollande. Et bien, ce gars-là prône la dérégulation des services publics. Et c'est vrai que sur les trois conseils d'administration dans lesquels il est, il y en a deux qui sont de sociétés issues de la dérégulation des services publics, Page Jaune et EDF Énergie Nouvelle. Donc on comprend mieux, voilà. Alors maintenant, il y a eu du remue-ménage un peu avec ces économistes qui ne disaient pas ce qu'ils étaient. Hein,
autoproclamés.
Alors il y a eu une double émission chez Mermet, hein, de Radio France, avec Ruffin, qui a fait la même chose. Il y a eu une double page de Renaud Lambert, un des co-auteurs du film dans Le Monde Diplomatique. Il y a eu Laurent Mauduit de Mediapart, qui a fini par sortir un bouquin aussi. Et donc ça a remué un peu. Alors France Culture, il y a une émission ben, le samedi matin, hein, avec Pastré du Cercle des économistes. Ils se sont mis maintenant à mettre le qualificatif dessous. Alors, tu dis, oh, quel gros progrès. Le problème, c'est qu'ils habitent toujours autant et que, je veux dire, donc, ça n'a pas changé grand-chose.
Ils cachetonnent toujours autant.
En fait, vous apercevez qu'avec ce système-là, c'est que c'est pas un système réformable. Parce que, oui, bon, on réforme un peu. Et ils vont rajouter maintenant le fait que Lorenzi est chez Rothschild, vous voyez, ou que Élie Cohen est administrateur de grandes sociétés. Mais ils continuent à les inviter que... Et pas les autres, vous voyez. Donc effectivement, on est toujours dans cette configuration. Alors j'ai fait un relevé d'une émission où il va falloir se mobiliser, quasiment sortir peut-être des petits calicots, etc. C'est virer Calvi de ses dents l'air, et non que notre service public soit le monopole d'ultralibéraux ou au mieux de sociaux libéraux. Vous voyez, donc j'ai fait le comptage, parce que nous, en plus, quand on avance des choses, on l'avance. C'est-à-dire qu'on va chercher,
c'est argumenté.
C'est argumenté dans le film. Il y a des comptages pour savoir combien de fois sont passés des gens comme Élie Cohen, Daniel Cohen, Nathalie, Menck, etc., comparé à des gens comme Jean Gadret, qui, excusez-moi du peu, est membre de la commission Stiglitz. Hein, c'est qu'un grand universitaire, Gadret. Lordon, qui est un chercheur, qui est un directeur de recherche au CNRS, qui ont souvent beaucoup plus de diplômes que des gens comme Bavré, qui n'est pas un économiste, mais un historien de l'économie, ou comme Michel Godet, qui est un gougnerfier, lui aussi. Donc, ces gars-là ne passent jamais. Alors, j'ai fait un comptage, hein, depuis 2 ans, 1er janvier 2011, chez Calvi, le plus, c'est Christophe Barbier, 83 fois. 83 fois, hein, vous comptez, ça fait quasiment une fois par semaine.
Plus.
Bruno Jeudy, oui, si on compte les, etc., c'est une fois tous les 5 jours. Hein. Bruno Jeudy, rédacteur en chef du service politique, en 2, 52 fois. Dominique Régnier, politologue, à droite, très à droite, 51 fois. Alors là, après, vous avez les gens comme Roland Quayrol, 49 fois, à un social-libéral. Renaud Délier, directeur de la rédaction de Nouvelle Obs, ça, c'est les à gauche, là. Hein. Ouais. Et après, vous avez
Pascal Perrineau, politologue, 44 fois. Yves Tréhard, éditorialiste de Figaro, 39 fois. Jérôme Sainte-Marie, politologue, 33 fois. Brice Ceinturier, politologue, 30 fois. C'est toujours les mêmes, ceux-là, bien sûr. Hein. Guillaume Roquette, directeur de la rédaction du Figaro Magazine, 28 fois. Raphaël Baquet, du Monde, laissez-moi rire, 25 fois. Philippe de Sertine, économiste ultralibéral, 22 fois. Gérard Grimbert, toujours politologue, vous voyez. Élie Cohen, le voilà, 17. Christian Saint-Étienne, économiste ultralibéral, 16 fois. Et voilà, un social, gauche-centre, Philippe Frémaux, Alternative économique. Et de nouveau, Rue du Folle, Le Figaro. Donc vous voyez, je veux dire, notre service public, compé avec notre redevance, est squatté par des gens qui viennent de la presse.
Qui sont des adversaires, des ennemis du service public.
Hein, tenus par les Pinault, les Arnault, les Bolloré, etc.
Qui veulent le pot du service public.
Et ils squattent le service public. Ils ont des chaises, des positions assises dans notre service public, alors qu'on a un gouvernement soi-disant de gauche, etc. Là, il y a une véritable campagne à mettre en place, qui est de dire, Calvi dehors, et c'est dans l'air. C'est quand même une des émissions quotidiennes politiques, c'est dans l'air. C'est la seule émission de quotidienne politique. Voyez. Et alors, vous avez, par exemple, parce que je l'ai fait, des émissions encore du service public, hein, de France 5, qui sont squattées par ces gens-là. Vous avez, par exemple, Axel de Tarlet, qui est éditorialiste chez Lagardère, hein, il est européen, il est le présentateur... je vais vous dire parce que je l'ai devant moi. Il est le présentateur de C'est-à-dire. Voyez, donc une émission de France 5. Caroline Roux, éditorialiste européen, donc pareil chez Lagardère, et présentatrice de C'est politique sur pareil.
Donc c'est une bande de.
Donc ces gars-là qui sont payés par Lagardère, Bolloré, Pinault, Arnault, qui sont des ultra-libéraux, qui dévident constamment leur pensée unique. Actuellement, c'est par exemple la moindre respiration de Hollande est une respiration bolchevique. C'est-à-dire que. J'ai une hypothèse, moi. C'est qu'au fond, ils sont payés par les socialistes, je me suis posé la question, pour faire croire au peuple de gauche qu'ils sont marxistes, qu'ils sont de gauche, vous voyez, parce qu'ils ne font rien, ces socialistes-là, et les autres hurlent au bolchevisme. Vous voyez, donc on se demande si c'est pas pour faire croire à ceux qui ont voté Hollande qu'ils seraient à gauche, vous voyez.
Un bon exemple, c'est quand Montebourg a parlé de nationalisation.
Oui, voilà.
Alors, là,
ils leur sont tombés dessus. Qui est sur France Inter, hein, qui est l'éditorialiste du matin de France Inter, qui est un gars des Échos, de la presse de Arnault. Hein. Juste pour vous dire, par exemple, Arnault, Éric Le Boucher, qui est directeur de l'information en jeu des Échos, et à l'esprit public et la rumeur du monde sur France Culture. Nicolas Bétou, ancien PDG des Échos, qui est encore éditorialiste, passe énormément dans C'est dans l'air. Et éditorialiste au 7-9 et à Question Critique sur France Inter. Dominique Seux, éditorialiste aux Échos et éditorialiste au 7-9 sur France Inter. Jean-Marc Vittori, éditorialiste aux Échos, intervient tous les jours sur France Info en fin de journée. Nicolas Barré, directeur délégué de la rédaction des Échos, est sur le 19h sur Public Sénat. Jean-Francis Pécresse, éditorialiste aux Échos, nouveau directeur de Radio Classique, et au 19h sur Public Sénat également. Guillaume Tabar, rédacteur en chef adjoint chargé de la politique aux Échos, comme on nous parle sur France Inter, le 22h sur Public Sénat, C'est dans l'air sur France 5. Vous vous rendez compte quand même ?
Ce sont
des bidasses, des fantassins de Arnault, et qui sont sur notre service public. Il est grand temps de nous mobiliser.
Payés par nos sous.
Arrêtons. Arrêtons. On ne va pas filer des impôts pour continuer à payer des gens comme ça, qui en plus n'ont qu'une volonté, c'est de nous dégommer nous. Vous voyez, c'est là, il y a un truc qui est les nouveaux chiens de garde, c'est pas fini, hein, je veux dire que
il y a encore justement,
et juste pour terminer, c'est la troisième partie du film, et ben c'est les faux impertinents, hein, les Michel Field, les Philippe Val qui étaient soi-disant.
Pourquoi tu dis des gros mots là?
Voilà, et c'est Michel Naudy qui intervient sur cette partie-là qu'on a entendu au début de l'émission, et à la fin effectivement, ben c'est les gardiens de l'ordre établi, hein, c'est les chiens de garde, Calvi, Pujada, etc., qui mordent le moins de velléité de révolte. révolte des cités, qui est certes pas toujours une révolte politique, mais une révolte du désespoir dû à des politiques. Et après, révolte ouvrière, on voit la fameuse séquence de Pujada qui demande à Xavier Mathieu, le leader CGT de Continental, de s'excuser suite à des petits dégâts. Pujada a refait la même chose l'autre jour en mettant les gars de PSA qui ont un peu remué des plantes vertes, etc., lors d'une manif, en pointant les dégâts qu'avait fait PSA et en ne disant absolument pas que ces gars-là vont se retrouver, comme disait Xavier Mathieu, voilà, sur les gars de Continental, divorcés, vont se retrouver peut-être dans la
toutes les conséquences sociales,
chômage, avec des suicides, etc. Ces politiques-là sont des politiques qui ont du sang sur les mains. Ces politiques-là et ces journalistes au bout d'un moment et ces experts-là ont en partie, indirectement, voire directement, du sang sur les mains, surtout les désespoirs, surtout les massacres qui produisent avec cette économie-là. Cette économie qui massacre les gens et cette économie-là qui massacre la planète en termes d'écologie. Je veux dire que là, il y a vraiment des résultats.
Et pourtant, ils sont bien propres sur eux, ils sont bien élevés.
Les bourgeois, c'est la presse bourgeoise. Hein, et qui remet en avant le fait que classe laborieuse, classe dangereuse, hein, dès qu'il y a des vérités de protestation, autre que glisser un bulletin dans l'urne et le bulletin du Parti Socialiste, nous devenons des dangereux, voilà.
On l'a vu par exemple avec, un bel exemple de traitement médiatique, l'affaire Tarnac.
Et oui.
Pendant une semaine ou 15 jours, on a vu le déchaînement de tous les médias, évidemment avec le même discours. C'est là qu'on a découvert d'ailleurs un nouveau concept, de l'ultra-gauche. On a vu descendre tous ces chiens de garde pour dénoncer ces soi-disant terroristes. Et puis ça s'est terminé comment ?
Ça s'est terminé que c'est certainement montage, que c'est un peu en autre boudin, et que voilà.
Et que par contre, les mêmes, on ne les a pas entendus.
On ne les a pas entendus. On parlait de ça, c'est un des titres du Parisien il n'y a pas très longtemps, c'est « Exil fiscal, ils sont partis, ils témoignent ». Non, c'est quand même extraordinaire.
On donne la parole aux gangsters.
Ce sont des voleurs à qui on donne la parole. Ce sont des gens qui, par leur malversation, leur acte de délinquance, entraînent des coupes sombres dans les services publics de la santé, de l'éducation et autres, qui font que, par exemple, ma femme, qui est prof à Roubaix, au collège Chamin, qui est un des bahuts les plus durs de la région, elle a vécu des coupes sombres, des suppressions de postes dans son bahut, etc. Ça veut dire que des élèves qui sont déjà dans la merde, des jeunes qui sont déjà dans la merde à cause de la merde dans laquelle on a foutu leurs parents, se retrouvent avec des enseignants en moins. Et les gars, ils sont en Belgique à côté. Vous vous rendez compte, c'est quand même gravissime. Vous savez quand même que Roubaix, c'est une étude qui est sortie en août. Et la ville où le seuil de pauvreté est le plus haut de France, 46% des familles de Roubaix sont au-dessus du seuil de pauvreté. 46%, plus de 15 000 familles, dom-tom compris. C'est-à-dire que Fort-de-France, La Réunion, etc., ont des seuils de pauvreté moins hauts que Roubaix. Et que Roubaix, en même temps, a généré les deux plus grandes fortunes de France, c'est-à-dire Mullier et Arnault. Je veux dire, c'est ça la réalité. Et les gars, ils partent à côté en plus pour planquer leur pognon, les Arnaud et Mullier. Et là, on leur donne la parole. Ils sont partis, ils témoignent. On donne la parole à des voleurs, à des bandits, à des délinquants.
Et on donne même pas la parole.
Et à Tarnac, on pourrait lui dire, ils ont été pris par un coup de Sarkozy, ils sont massacrés à Continental, voilà, on leur donne la parole. Non, eux, on leur donne pas la parole. Et par contre, à des bandits, on leur donne la parole. C'est impressionnant. Je vais vous dire un petit passage. C'est un bouquin qui s'appelle Les patrons de la presse nationale, tous mauvais. Jean Stern. Alors Jean Stern, c'est pas un gauchiste. Hein. Jean Stern, c'est un journaliste qui a fait le CFJ dans les années 80, c'est-à-dire la plus grande école de journalisme de Paris, qui a travaillé au Nouvel Économiste, à La Tribune et à Libé. Donc vous voyez, c'est un journaliste en plus un peu naïf, un peu béni-oui-oui. Et il raconte un peu où on en est. Il dit « Toujours bouffeur de papier et encore amoureux de la presse quotidienne où je travaille de diverses manières depuis plus de 30 ans, j'ai vu mourir le monde des journalistes qui croyaient à l'indépendance des journaux. J'ai assisté à un naufrage qui fait de la presse nationale française la risée de nos confrères européens. Britta Stenberg, de l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, écrivait en janvier 2012 qu'elle était moribonde et ironisée sur ses sauveurs, des milliardaires bienveillants. Elle a raison. Sur le constat, la presse nationale pour l'essentiel est dans le coma, elle a tort d'en rire. Ce n'est pas une histoire drôle et les nouveaux propriétaires milliardaires ne sont pas des bienveillants, ces patrons tous mauvais. Et le gars fait le constat que c'est grave, on est dans un état de servilité et grave. Qu'est-ce qu'il dit plus loin? Il dit parmi elles, c'est-à-dire les faiblesses de la presse française. Il faut bien sûr compter le conformisme, le formatage, le travail bâclé, le manque d'enquête. Bien sûr, il faut s'indigner du poids des éditorialistes experts cancanant en boucle des idées rabâchées, de la médiocrité et souvent du manque de courage de nombreux rédacteurs en chef, de la servilité et de l'incompétence de certains journalistes. Bien sûr, il faut dénoncer ce journaliste de connivence et de revoi d'ascenseur. C'est un journaliste qui était dans le moule qui écrit ça. On s'habitue à vivre dans une toile de fond d'une presse qui est inadmissible. Je sais qu'ici, vous le savez. Mais je veux dire qu'il est grand temps de se révolter très très bruyamment de l'état dans lequel est la presse française. Ce qui donne la mort de Michel Naudy, ce qui donne que Pierre Carle, par exemple, est au RSA, que moi je vais peut-être pas tarder à l'être, que des Julien Brigot, qui sont des camarades qui travaillent au plan B, qui écrivent dans le monde diplomatique, qui ont fait tous des écoles de journalisme, sont dans la merde, que Ruffin tient, alors qu'il a fait le CFJ, que c'est un bon journaliste et qui tient à Fakir, mais que c'est difficile, que Pierre Souchon, qui travaille pour lui, qui a fait l'ESJ à Lille, est un journaliste qui gagne 600 euros par mois. Voilà, on en est là. On en est dans ces réalités-là. On est dans une réalité d'une presse quasiment de plus en plus criminel par sa servilité, qui gave des gens totalement incompétents et qui font de la propagande, c'est gravissime, c'est gravissime.
Justement, c'est l'occasion de rappeler que dans l'information que vous donnez avec le DVD, les nouveaux chiens de garde, il y a cette carte-là qui existait déjà dans Plan B, c'est ce que j'appelle moi la pieuvre, où effectivement tout ça est illustré d'une façon très claire.
Et on la voit carte du PPA.
La carte du PPA, c'est-à-dire on voit les imbrications entre le pognon et puis les titres. Il n'y a pas beaucoup de titres qui ne sont pas dedans. Alors, le canard enchaîné, par exemple, le Fakir,
tu viens de le citer. Tu fais vite, t'as le bon diplo, t'as l'UMA. T'as Politis, t'as le cas enchaîné, t'as Marianne. Alors on peut être d'accord ou pas avec Marianne, parfois on n'est pas d'accord quand même sur ce qu'ils font, mais enfin bon. Après il y a La Croix, et après t'as fait le tour et c'est fini.
Alter Eco, c'est déjà dans la
machine. Non, oui, Alternative Économique aussi, ouais. Effectivement.
Et des trucs comme Charlie Hebdo ou Ciné.
Charlie Hebdo, ouais. Enfin bon, Charlie Hebdo, quand il est passé, ça quand même.
Et des trucs comme.
Ciné, oui, etc. Mais après, c'est des presses alternatives. Hein. Ouais, mais
dans la presse.
Après, t'as encore un peu un service public, vous avez vu comment il est squatté, hein, par les autres qui sont détenus par des. Etc. Alors, ce que je voulais dire, c'est que face à ça, on peut se dire, oh là là, il est en train de nous présenter un constat qui est un peu rude. Hein. Alors d'abord, le film, il est plein d'humour et plein de pêche. Ouais, c'est-à-dire, quand on sort du film, on a plutôt envie de les baffer et de les taper plutôt que de partir.
On a envie de la rentrer dedans.
Ouais, ouais. Et en plus, on a envie. On a les crocs avec ce film-là, ça c'est bien, hein, parce que voilà, effectivement le constat est dur, mais on a des canines, hein, donc on peut mordre, hein, et on a de quoi faire. C'est pas fini, le film n'est pas fini. D'abord, bon, c'est vrai qu'il est plus en cinéma, mais c'est pas forcément foutu. Hein, ce qui pourrait être rigolo, c'est qu'on risque peut-être d'être nominé au César, et on risque peut-être de l'avoir. Donc là, ça serait rigolo, il pourrait ressortir du coup dans les salles de cinéma. Donc il y a la sortie.
Tu dis ça sans rigoler ou...
Non, c'est vrai en plus. Ouais. Ben oui, mais enfin, les Césars, c'est souvent les primes aux films qui marchent. Donc, Toussaint Larzac a eu le César l'année dernière. Hein, ce qui a fait que Toussaint Larzac a fait 180 000 entrées. Par exemple, c'est un bon film, hein, c'est un bon documentaire.
Ah ouais, Toussaint Larzac, c'est impressionnant. Dis,
ouais, bien
c'est...
sûr. Ben, nous, on est à 220 000 entrées.
Ouais, parce qu'il faut préciser que tout en étant des films militants, ce sont des films de professionnels.
Mais c'est ça.
C'est un vrai produit cinématographique.
Et je veux dire, presque moi, ce n'est pas des films militants, ce sont des films tout court. Je veux dire, c'est les autres qui sont militants. C'est les Barbiers, c'est les Apathy, etc. Ouais. C'est eux les militant ultra-libéralisme. Donc, je veux dire qu'on est là-dedans, on fait un travail, mais vraiment rigoureux, parce qu'on est des journalistes. Moi, j'ai fait une école de journalisme et que ça m'importe, hein, comme dans les services publics de France Télécom, d'EDF ou d'Éducation nationale. Les gars qui travaillaient avaient une idée haute de leur boulot. Et ailleurs aussi, hein, les salariés, bien souvent, ils s'investissent dans leur boulot. Ils y croient, ils mettent leur trip, hein, parfois même, ils se suicident à cause de ça, hein, quand on les dégomme. Donc, le DVD est sorti le 4 décembre, donc c'est un moyen pour qu'ils continuent à vivre. C'est-à-dire que les réseaux ont été de nouveau alertés, les CE le prennent. Il y a eu par exemple le CEDF à Toulouse qu'on a acheté, c'est pas 50-60. On a fait une opération avec Fakir, hein, le journal donc d'Amiens. On en a acheté 1000, là maintenant même 1500, à Crimed aussi. Il est distribué et on l'a acheté à 9,90€ à Epicentre. Hein. Il est vendu à 14,90€ sur leur site, plus le port. Et l'argent ira à Fakir pour moitié et pour un pot pour faire d'autres films derrière. Hein.
C'est
donc
ça,
c'est une opération pour pas l'acheter. Parce que comme
pour pas donner ce pognon-là.
C'est un distributeur classique. Ouais. Il a vendu à Epicentre.
Amazon
ou à Pinot à la Fnac. Hein. Donc voilà. Donc les gens qui veulent pas, ils peuvent directement. Alors moi à Lille, j'en ai quelques-uns chez moi. Hein. S'il y en a qui veulent, ils peuvent toujours.
Ici, à Campus, on a quelques-uns. aussi. Hein,
donc on pourra toujours, on peut en mettre
un. Et puis sinon, il faut, aller, sur le, il faut aller sur le site de Fakir.
Il faut aller sur le site de Fakir, du Mondiplo ou d'Acrimed, et là on peut l'acheter directement et l'avoir quelques jours après. Et le film, il va vivre grâce à ça. Il va vivre parce qu'il y a des CE qui vont faire, par exemple, la formation syndicale. Moi, cet été, le comité entreprise d'EDF va me faire tourner dans les camps de vacances pour faire des ateliers sur les médias, hein, et plus des projections du film. Voilà. Ça, c'est un travail militant qui continue. On a eu un café repère en début de semaine dernière, là, lundi. L'idée, c'est peut-être de monter une antenne à Acrimed sur l'île. Hein, il y a une antenne Acrimed à Toulouse, il y en a une à Lyon. Pourquoi pas, s'il y en a qui entendent, de téléphoner, hein, de téléphoner à Sam, etc., pour voir s'ils n'ont pas envie de monter une antenne Acrimed. Et on pourrait être un observatoire, par exemple, de la presse locale.
Je te propose une petite chanson, et on parle et après d'Acrimed, parce qu'Acrimed, ça fait un sacré boulot aussi. Une chanson, bah tiens, c'est pas nouveau, hein, ce dont on discute là. C'est une chanson de Léo Ferré qui date des années 60, ça s'appelle « La complainte de la télé ».
On m'appelle la télé, la montreuse à tout va. Avant de faire le trottoir, je me l'écaille sur les toits. Je suis pas grand chose de bien, c'est sûr, mais ce qui me gêne, c'est leurs jeux interlopes qui me luxent les antennes. J'ai un gars qui est direct et l'autre qu'on nomme playback, et tout ça se pellicule et tout ça se met en boîte. Mais les clients sérieux, c'est pas qu'ils m'embarrassent, et pour pas faire d'envieux, je me les fais face à face. Et pour pas faire d'envieux, je me les fais face à face. On m'appelle la télé, la montreuse électrique, et je suis comme une morphine qu'endort la République. Quand il y a des pinailleurs qui me soulèvent des problèmes, sur qui ou quoi ou qu'est-ce, je leur dis jugez vous-même. Un ministre à l'année que le trottoir indispose entre deux cabinets fréquente ma télé close pour les yeux affamés qui vont chercher fortune dans mon lit à colonne. Je peux leur montrer ma une dans mon lit à colonne. Je peux leur montrer ma une. On m'appelle la télé des familles et tout ce qu'il y a de mieux. J'ai des ministres occultes à qui je fais les yeux. Je suis la télé partout, finalement, faut bien le dire, qu'importe la partout, quand c'est pour le plaisir. Des fois je suis l'invisible, j'en ai qui marche à ça. T'as pas vu mon coco, mes soutiens caméra. Quand je suis exciting, y a de drôles de poulets qui foutent un carré blanc sur ceux qu'ils vont lorgner. Qui foutent un carré blanc sur ceux qu'ils vont lorgner. On m'appelle la télé et je fais tous les quartiers avec mes pattes en l'air. J'ai le voyeur assuré, l'Olympe s'est vidé, le music hall du business. Alors pour le remplir, il tâte mon palmarès. Depuis que j'ai de la lecture pour tous, je suis un peu snob. Je bouffe avec mon terlan qui m'améliore mon job. Mais comme le vendredi, c'est le jour de la morue, mon Mac Panorama me fout au coin des rues. Mon Mac Panorama me fout au coin des rues. On m'appelle la télé de la photo cavaleuse sur mon trottoir là-haut. Je me sens toute transisteuse, tout comme les filles publiques qu'ont leur jour de sortie. Moi, pour prendre un coup d'air, faut que je me tape le rubis. Des fois, je suis comme les grues qui font du sentiment. Je fais pas payer trop cher et tout le monde est content. Des fois, je suis pas causeuse, c'est quand j'ai mes affaires. Alors je dis barca et je prends le frais, mon petit père. Alors je dis barca et je prends le frais, mon petit père.
je tromperai mon petit père.
Léo Ferré, la complainte de la télé, où on retrouve notre invité Gilles Balbastre, co-réalisateur du film Les Nouveaux Chiens de Garde, que l'on peut maintenant retrouver en DVD si vous voulez vous le procurer. Vous allez sur le site de Fakir, sur le site du Monde Diplo, sur le site d'Acrimed. Je voulais quand même parler de mots, on les a déjà bien assaisonnés, nos amis journalistes. Mais il faut aussi rappeler qu'il y en a beaucoup qui laissent la course au pognon, à commencer par un petit truc que les journalistes ne dénoncent jamais. Hein, dans le cadre des niches fiscales, les journalistes ont un privilège fiscal.
Ah oui, ils ont, je crois que c'est 7000 euros hein, de dégrèvement d'impôts. Qu'ils ont toujours eu renouvelé par des politiques qui ont bien soin de les protéger. Hein, je veux dire, et c'est vrai que ce qui est grave là, c'est qu'avec un gouvernement comme celui de Hollande, on constate maintenant même plus une velléité hein, de repositionner, de reposer des questions sur l'organisation des médias, parce que tout ça, c'est des lois, hein,
c'est un
cadre législatif qui s'est transformé. Hein. Quand Jospin est arrivé en 97, il est allé voir sa ministre Trottmann de la communication pour dire voilà, je vais faire une loi, il faut faire une loi sur diminuer les seuils de concentration, empêcher que des grands propriétaires financiers ou industriels possèdent beaucoup de médias, rediminuer comme avaient fait les ordonnances de 44. Et ben, trois mois après, il est allé voir Trottmann en disant j'arrête tout, je veux me présenter aux élections présidentielles 2002, je veux pas me foutre TF1 et Bouygues contre moi. Mais là, le Hollande, il a même pas d'évilité de faire ça, il a même pas été voir Aurélie Filippetti pour lui demander ça. Et en plus, excusez-moi, hein, sa copine, elle est membre, elle est journaliste de chez Bolloré et de chez Lagarde. Donc c'est encore une étape de plus de déliquescence et de renoncement. Ça,
il n'y a pas conflit d'intérêt là.
Ah ouais, non, il n'y a pas conflit d'intérêt.
Deux mots sur Acrimed quand même. Donc il faut rappeler aussi le bon boulot qui est fait par ces Acrimed, qui est une équipe de journalistes d'ailleurs essentiellement.
D'intellectuels, de syndicalistes,
qui critiquent
de citoyens.
Les médias. Acrimed, ça veut dire
Action Critique Média, voilà. Hein, donc qui a été monté en 95 après la lutte contre la réforme Juppé. Hein, autour après, il y avait Bourdieu, il y avait des sociologues, etc.
Et, donc ça vaut le coup d'aller jeter
un œil sur ce site. Je pense que c'est important d'aller d'abord
le visiter.
Tout
ce que tu viens de dire, qu'on a essayé de dire en une heure, là, en fait, on peut développer ça dans le détail et avec beaucoup de références. C'est un vrai boulot aussi d'investissement.
Bien sûr, et un boulot, à notre avis, qui est hyper important. Voilà, c'est un des piliers de ce système. Le système capitaliste, les médias, est un de ses piliers. Et on fait pas ça, nous, pour le plaisir, parce qu'on est des journalistes, ou par un souci de corporatisme. Je veux dire que la lutte contre les médias comme ça est une lutte progressiste. Si on veut que ce monde change, il y a un enjeu hyper important. Les résistants en 1944 le savaient et le mettaient en place. Et il y a un enjeu, donc, politique et syndical. Il faut que nous, issus de la gauche de la gauche, nos syndicats reprennent la main sur la question des médias. Il faut que les responsables politiques et syndicalistes, comme faisait Crasu, comme faisait Segui, comme faisait Marché, pourtant moi j'étais pas au PC à l'époque, etc., reconsidèrent que la majorité des journalistes qui sont dans la majorité des médias détenus par ces grands groupes industriels et financiers sont des ennemis de classe. Et quand t'y vas avec la lutte des classes en filigrane derrière. Ils sont pas là pour te faire de cadeaux, ils sont là pour faire des cadeaux à leur patron. Et ça, reprendre cette attitude, je veux dire, qui est une lutte profonde
et
fondamentale.
Voilà,
il faut repolitiser la question des médias d'une façon importante. Ça a été fait un peu par le Front de Gauche, hein, effectivement. Mon syndicat, la CGT, mais comme Sud ou la FSU, s'est intéressé à cette question des médias à travers le film, s'est investi. Et ça, ce sont des bons signes. Il faut continuer, d'autant plus avec la gravité de la situation. Il faut investir effectivement la lutte contre ces médias-là.
Ah ben Gilles, je crois que tu vois, une heure ça passe vite, on aura certainement l'occasion de se retrouver parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire, parce que par exemple le volet étranger, qu'est-ce qui se passe ailleurs?
On n'a pas parlé d'international.
Ça sera l'occasion d'en reparler.
De comment il part de l'international et qu'est-ce qui se passe à l'international au niveau des
médias.
Donc
on prend rendez-vous. Et on a beaucoup, j'ai passé deux chansons là, effectivement, c'était Lafaille et puis Ferré et François Béranger, mais il y a aussi des gens, Lafaille c'est quand même actuel et contemporain, il y en a un autre, il s'appelle Michel Buller, mais il est suisse. Il a aussi écrit une chanson, Craché sur ma télé. C'est avec cette chanson que l'on se dit au revoir. Et si vous voulez vous procurer le DVD Les Nouveaux Chiens de Garde, dont on vient de parler longuement avec Gilles Balbastre, vous allez sur les sites précités, Acrimed, Fakir ou Le Monde Diplo. Merci Gilles, à plus.
À plus. Merci.
Le petit gars qui turbine tout au long de la journée, quand il sort de l'usine en morceaux rétamés. Qu'est-ce qu'il lui reste, pauvre mec, pour supporter la vie? Un petit jaune, un blanc sec, du gros rouge de 3,5. Ce remède à forte dose, hélas, on le sait très bien, ça se termine en cirrhose, en délirium très main. On a pourtant tous droit au bonheur, nom de Dieu, ma solution, la voilà. Y'a que ça qui me rend heureux, cracher sur ma télé, insulter le répondeur qui me dit depuis trois quarts d'heure, un instant patienter, justement pas acheter, bah ça me brise les choses, les machins dont on me cause dans la publicité. Balancer la radio par le trou des goguenots, quel panard, et ça coûte pas gros. Il y en a qui sont accros à la bouffe maniaque, qui s'enfilent dans le goulot en guise de Prozac, des yeux de crustacés, des narines de yak, jusqu'à s'en faire péter la panse et l'estomac. Il y en a qui ne jurent que par les plaisirs du cul. Bon, je l'admets, ce jeu m'a rarement déçu, mais pour sauter en l'air, pour faire reluire ma gueule, moi j'ai le truc pépère et je peux faire ça tout seul, cracher sur ma télé, au journal de 20h, voir un petit porteur que la bourse a baisé, regardez le PDG, la multinationale qui se fait jeter loin du bal comme un naze qu'il est, voir mener au cimetière un abruti militaire, quel panard, et ça coûte pas cher. Il y en a qui vont chercher des produits exotiques, qui fument des pieds paquets ou se piquent aux crottes de bique. J'en connais qu'ils ont besoin pour combler leur psychique, grands horizons lointains de banlieue nord ou de Belgique. Il y a le pas beau à voir, avec ses griffes et ses dents, qui rêvait que de pouvoir, v'là que c'est notre président. Il y en a qui se mettent gourou, il y en a qui jouent les stars. Moi, il me faut rien du tout, tant que je peux peinard, cracher sur ma télé, éclater mon portable et tous ces trucs minables qu'on vient mettre sous mon nez, la lessive à crado, la cagnotte du loto, la bagnole à turbo, et comme cerise sur le gâteau, flinguer quelques chasseurs, faire taire 10 chanteurs, ceux qui miaulent comme des phoques en chaleur, écluser 100 tonneaux, pisser sur le drapeau, en braillant, et ça sera jamais trop, mort au con, y'a que ça de vraiment salaud.